c'est à Mkekezweni qu'est né mon intérêt pour l'histoire africaine. Jusqu'alors, je n'avais entendu parler que des héros Kossa, mais à la grande demeure, j'ai appris les noms d'autres héros africains, comme Sekukune, roi des Bapedi, et celui du roi des Basoto, Moshoeshoe, et Dingane, le roi des Zoulous, et d'autres encore, comme Bambata, Hintsa et Makana, Monchiwa et Kgama. J'ai entendu parler de ces hommes par les chefs qui venaient à la grande demeure pour régler des disputes et juger des affaires. Bien qu'ils ne fussent pas hommes de loi, ces chefs présentaient des affaires et les jugeaient. Certains jours, ils finissaient de bonne heure et s'asseyaient en rond pour raconter des histoires. Je m'approchais sans rien dire et j'écoutais. Ils parlaient un idiome que je n'avais jamais entendu auparavant. Leur langue était formelle et hautaine, leur manière lente et assurée, et les clics traditionnels de notre langue étaient longs et spectaculaires. Le plus âgé des chefs, qui régalait les anciens avec des contes d'autrefois, s'appelait Zweli Bangile Joyi, un fils de la grande demeure du roi Ngubengkuka. Le chef Joyi était si vieux que la peau ridée de son dos pendait sur lui comme un manteau trop grand. Mais aussi âgé qu'il paraissait, les décennies le quittaient quand il parlait des jeunes Impi, ou guerriers, de l'armée du roi Ngangeliswe, qui luttait contre les Britanniques. Le chef Joyi se lançait dans une pantomime. Il tirait son épée et rampait sur le veld en racontant les victoires et les défaites. Il parlait de l'héroïsme de Ngangeliswe, de sa générosité et de son humilité, et combien il avait été honoré de combattre pour lui. Le chef Joyi s'en prenait à l'homme blanc, qui, croyait-il, avait volontairement divisé la tribu Kossa en séparant le frère du frère. L'homme blanc avait dit aux Tembous que leur véritable chef était la grande reine blanche de l'autre côté de l'océan, et qu'ils étaient ses sujets. Les histoires de guerre du chef Joyi et les accusations qu'il lançait contre les Britanniques faisaient naître en moi de la colère, et je me sentais volé, comme si l'on m'avait déjà volé mon droit de naissance. Le chef Joyi disait que les Africains avaient vécu dans une paix relative jusqu'à l'arrivée des Abelongu, les Blancs, venus sur la mer avec des armes qui crachaient le feu. Je ne savais pas encore que la véritable histoire de notre pays ne se trouvait pas dans les livres britanniques qui affirmaient que l'Afrique du Sud commençait avec l'arrivée de Jan van Riebeeck au Cap de Bonne-Espérance en 1652. Grâce au chef Joyi, j'ai commencé à découvrir que l'histoire des peuples de langue bantoue commençait bien plus au nord, dans un pays de lacs, de plaines et de vallées vertes, et que lentement, au cours des millénaires, nous étions descendus jusqu'à la pointe extrême de ce grand continent. En janvier 1934, alors que j'avais 16 ans, le régent décida qu'il était temps que je devienne un homme. Dans la tradition Kossa, on n'y parvient que d'une seule façon, la circoncision. Dans ma tradition, un homme non circoncis ne peut hériter de la richesse de son père, ni se marier, ni officier dans les rituels tribaux. Un Kossa non circoncis est une contradiction dans les termes, car il n'est pas du tout considéré comme un homme, mais comme un enfant. Pour les Kossa, la circoncision représente l'incorporation formelle des hommes dans la société. Ce n'est pas seulement un acte chirurgical, mais un rituel long et élaboré de préparation à l'âge adulte. En tant que Kossa, je compte mon âge d'homme à partir de ma circoncision. Avec d'autres garçons, je suis allé jusqu'à deux huttes de paille dans une vallée retirée au bord de la rivière quelques jours avant la cérémonie de circoncision. J'ai passé ces derniers jours d'enfance avec les autres initiés, et j'ai beaucoup aimé notre camaraderie. Les huttes se trouvaient près de chez Banabake Blaï, le garçon le plus riche et le plus populaire de l'école de circoncision. C'était un compagnon attachant, un champion de combat au bâton et un séducteur dont les nombreuses petites amies nous fournissaient des friandises. Il nous racontait ses voyages à Johannesburg, un endroit où aucun de nous n'était jamais allé. Il nous faisait tellement vibrer avec des histoires sur les mines qu'il m'a presque persuadé que devenir mineur était plus alléchant que devenir monarque. Les mineurs avaient une mystique. Être mineur signifiait être fort et audacieux, l'idéal de l'homme adulte. Beaucoup plus tard, je me suis rendu compte que c'étaient les histoires exagérées par des garçons comme Banabake, qui entraînaient tant de jeunes à se sauver pour aller travailler dans les mines de Johannesburg, où ils perdaient souvent leur santé et leur vie. À l'aube, alors que toutes les étoiles brillaient encore dans le ciel, nous avons entamé les préparatifs. La cérémonie avait lieu à midi, et on nous a donné l'ordre de nous mettre sur une file dans une clairière à quelque distance de la rivière où se trouvait la foule de nos parents, y compris le régent, ainsi que des chefs et des conseillers. Nous ne portions qu'une couverture. Et quand la cérémonie a commencé et que les tambours ont résonné, on nous a demandé de nous asseoir sur une couverture posée sur le sol, les jambes étendues devant nous. J'étais inquiet et incertain de la façon dont je réagirais au moment critique. Sursauter ou pleurer était un signe de faiblesse et entachait le passage à l'âge adulte. J'avais décidé de ne déshonorer ni le groupe, ni mon tuteur, ni moi. La circoncision est une épreuve de courage et de stoïcisme. On n'utilise aucun anesthésique. Un homme doit souffrir en silence. À ma droite, du coin de l'œil, j'ai vu un homme âgé sortir d'une tente et s'agenouiller devant le premier garçon. Il y eut de l'agitation dans la foule et j'ai légèrement frissonné en sachant que le rituel allait commencer. Le vieil homme était un célèbre Inksibi, un spécialiste de la circoncision, venu du Kalekaland qui se servait de sa sagaie pour nous transformer d'un seul coup d'enfant en homme. Brusquement, j'ai entendu le premier garçon crier « Ndiyindoda !» Je suis un homme. Les mots qu'on nous avait appris à dire au moment de la circoncision. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu la voix étranglée de justice qui criait la même phrase. Il restait deux garçons avant que l'Inksibi arrive à moi. Mais mon esprit a dû avoir un passage à vide parce que, avant que je m'en rende compte, le vieil homme était agenouillé devant moi. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Il était pâle. Et malgré la fraîcheur de la journée, la sueur faisait briller son visage. Ses mains allaient si vite qu'elles semblaient contrôlées par une force d'un autre monde. Sans un mot, il a pris mon prépuce, il l'a tiré. Et d'un seul geste, il a abattu sa sagaie. J'ai eu l'impression que du feu se répandait dans mes veines. La douleur était si violente que j'ai enfoncé le menton dans la poitrine. De nombreuses secondes ont passé avant que je me souvienne du cri. Puis, j'ai retrouvé mes esprits et j'ai hurlé. Ndiyindoda ! J'avais franchi la principale étape de la vie de chaque homme Kosa. Maintenant, je pouvais me marier, fonder un foyer et labourer mon champ. Je pouvais être admis dans les conseils de ma communauté. On prendrait mes paroles au sérieux. Au cours de la cérémonie, on m'a donné mon nom de circoncision, Dalibunga, qui signifie « fondateur du Bunga », l'organe dirigeant traditionnel du Transkei. Pour les Kosa traditionnalistes, ce nom est plus acceptable que mes deux prénoms précédents, Rolitlatla ou Nelson, et j'étais fier d'entendre prononcer ce nouveau prénom, Dalibunga. À la fin de notre retraite, on a brûlé les huttes et tout ce qu'elles contenaient, détruisant ainsi nos derniers liens avec l'enfance. Et une grande cérémonie eut lieu pour nous accueillir dans la société en tant qu'hommes. Nos familles, nos amis et les chefs locaux se réunirent pour des discours, des chansons et des cadeaux. Le principal orateur de la journée fut le chef Melik Kili, le fils de Dalin Diabo. Et après l'avoir écouté, mes rêves gaiement colorés se sont brusquement obscurcis. Il commença de façon conventionnelle, en remarquant qu'il était bien que nous continuions une tradition qui durait depuis plus longtemps que personne ne pouvait s'en souvenir. Puis il s'adressa à nous, et soudain son ton changea. « Et voici nos fils, » dit-il, jeunes, robustes et beaux, la fleur de la tribu Kossa, l'orgueil de notre nation. Nous venons de les circoncire dans un rituel qui leur promet de devenir adultes. Mais je suis ici pour vous dire qu'il s'agit d'une promesse vide et illusoire, une promesse qui ne pourra jamais être remplie. Car nous, les Kossa, et tous les Noirs d'Afrique du Sud, nous sommes un peuple conquis. Nous sommes esclaves dans notre propre pays. Nous sommes locataires de notre propre terre. Nous n'avons aucune force, aucun pouvoir, aucun contrôle sur notre propre destinée dans le pays de notre naissance. Ils iront dans les villes, où ils vivront dans des taudis, et où ils boiront de l'alcool frelaté parce que nous n'avons pas de terre à leur donner sur laquelle ils pourraient prospérer et se multiplier. Ils cracheront leurs poumons au fond des entrailles des mines de l'homme blanc, en ruinant leur santé sans jamais voir le soleil, pour que l'homme blanc puisse mener une vie de richesse sans pareil. Les capacités, l'intelligence, la promesse de ces jeunes gens seront gaspillées, car ils gagneront leur maigre pitance en accomplissant les tâches les plus simples, les plus stupides pour l'homme blanc. Les cadeaux que nous leur faisons aujourd'hui n'ont aucune valeur, car nous ne pouvons leur offrir le plus grand de tous les cadeaux, c'est-à-dire la liberté et l'indépendance. Je sais très bien que Kamata voit tout et ne dort jamais, mais je me demande si Kamata ne somnole pas un peu. Si c'est le cas, plus tôt je mourrai, et mieux cela vaudra. Parce que quand je le rencontrerai, je le réveillerai et je lui dirai que les enfants sont en train de mourir. L'assistance était devenue de plus en plus silencieuse tandis que le chef Melik Kili parlait. Et je crois que sa colère montait. Personne ne voulait entendre les mots qu'il prononça ce jour-là. Je sais que moi-même, je ne voulais pas les entendre. À l'époque, je ne considérais pas l'homme blanc comme un oppresseur, mais comme un bienfaiteur, et je pensais que le chef était d'une ingratitude colossale. Mais sans comprendre exactement pourquoi, ses paroles ont bientôt agi en moi. Il avait semé une graine, et bien que je l'ai laissé dormir pendant une longue saison, elle finit par germer.